Chapitre 24. Reconnaissance. Discovery avait quitté la Terre en emportant trois des petits modules spatiaux qui permettaient à un astronaute de travailler à l'extérieur d'un vaisseau quasiment en manche de chemise. Le premier avait été perdu dans l'accident, si c'était un accident, qui avait coûté la vie à Frank Poole. Le second avait emmené Dave Bowman à son rendez-vous final avec Big Brother et avait partagé son sort, quel qu'il fût. Le dernier était encore dans son garage, la salle des modules. Il lui manquait une pièce importante, la porte, que le commandant Bowman avait fait sauter quand il avait traversé le vide en catastrophe pour rentrer dans le vaisseau par le sas de secours après que Hal eut refusé d'ouvrir la porte du garage. La décompression explosive de l'air avait projeté le module à plusieurs centaines de kilomètres avant que Bowman, occupé à d'autres tâches, l'ait repris sous contrôle radio. Il n'était pas étonnant qu'il ne se soit pas soucié de remplacer la porte manquante. On préparait maintenant le module numéro 2, sur lequel Max avait peint le mot « Nina » en refusant de s'expliquer, à une nouvelle excursion dans l'espace. Il n'avait toujours pas de porte, mais c'était sans importance. Aucun passager n'y prendrait place. Le sens du devoir dont avait fait preuve Bowman en récupérant le module était une chance inespérée et ils auraient été stupides de ne pas en profiter. En se servant de la Nina comme d'une sonde robot, on pouvait examiner Big Brother de près sans risquer la vie d'un homme. Tout au moins, en théorie, car personne ne pouvait écarter la possibilité d'un choc en retour qui viendrait balayer le vaisseau. 50 kilomètres, après tout, ce n'était que l'épaisseur d'un cheveu à l'échelle cosmique. Après plusieurs années d'inactivité, la Nina avait vraiment lamentable allure. La poussière en suspension dans l'espace au voisinage d'Io s'était déposée sur sa coque, jadis d'un blanc immaculé, maintenant d'un jaune douteux. À la voir accélérer lentement pour s'écarter du vaisseau, ses manipulateurs extérieurs sagement repliés et son hublot ovale braqué sur le vide comme un œil mort, énorme, elle ne faisait pas un ambassadeur de l'humanité très impressionnant. Mais c'était en soi un avantage. Un émissaire aussi humble serait peut-être toléré, sa taille et sa faible vitesse venant souligner ses intentions pacifiques. Il avait été suggéré qu'elle s'approche de Big Brother les mains tendues, mais cette idée fut rapidement enterrée. Ils étaient tous d'accord pour dire que s'ils voyaient Nina arriver sur eux en brandissant ses griffes mécaniques, ils se sauveraient à toutes jambes. Au bout d'une promenade de 2 heures, la Nina s'arrêta à 100 mètres d'un des angles de l'immense dalle noire. Les caméras montraient la pointe d'un tétraèdre d'une taille indéfinie. Les instruments n'indiquaient aucune radiation, aucun champ magnétique. Rien ne venait de Big Brother, sinon l'infime fraction de la lumière solaire qu'il daignait réfléchir. Après une pause de 5 minutes, voulant signifier « Salut, me voilà » ou quelque chose d'équivalent, la Nina parcourut en diagonale une petite face du tétraèdre, puis une autre, puis enfin la plus grande, restant généralement à 50 mètres de distance, mais s'approchant parfois à 5 mètres. De près ou de loin, Big Brother était identique, immuable. Bien avant la fin de cette exploration, l'ennui avait gagné l'équipage et les spectateurs des 2 vaisseaux étaient retournés à leurs tâches respectives, jetant de temps en temps un coup d'œil sur les écrans.
« C'est tout ?»
dit enfin Walter Kernow quand la Nina fut retournée à son point de départ.
« Nous pourrions y passer une vie sans rien apprendre de plus. »« Qu'est-ce que je fais de la Nina ? Je la ramène à la maison ?»«
Non, » dit Vassili, intervenant sur les ondes de Pileonov. « J'ai une idée. Amenez-la exactement au centre de la grande face. Immobilisez-la à, disons, une distance de 100 mètres. Et laissez-la flotter, en la suivant au radar avec la plus grande précision possible. »
Pas de problème, sinon qu'il y aura une certaine dérive résiduelle. Mais pourquoi faire?
Je viens de me rappeler un exercice datant d'un de mes cours d'astronomie à l'université. L'attraction gravifique d'une surface plane infinie. Je n'aurais jamais cru avoir l'occasion de l'appliquer à un cas concret. En étudiant les déplacements de la Nina pendant quelques heures, j'aurais au moins une chance de calculer la masse de Zadatka. Pour autant qu'elle en ait une. Je commence à croire qu'en réalité, il n'y a rien là-bas.
Ouais, il y a un moyen de régler la question, et que nous devrons employer de toute façon.
Nina doit s'approcher et toucher la chose. Elle l'a déjà fait.
Mais comment cela ?
S'écria Kernow, presque indigné.
Je ne me suis jamais approché à moins de 5 mètres.
Je ne critique pas vos talents de chauffeur. Pourtant, c'était tout juste à ce premier passage, n'est-ce pas? Mais vous avez doucement tapoté Zadatka chaque fois que vous avez employé les réacteurs de la Nina près de sa surface.
Une puce sur un éléphant.
Peut-être. Nous n'en savons rien. Mais nous avons intérêt à tenir pour acquis que cette chose, d'une façon ou d'une autre, est consciente de notre existence, et qu'elle ne nous tolérera qu'aussi longtemps que nous ne la gênerons pas.
Une question qu'il ne formula pas était dans tous les esprits. Quand commence-t-on à gêner une dalle noire de 2 kilomètres de long? Et quelle forme au juste prendrait sa désapprobation?